Le journal de 18h. Linda Christelle Ballier.
Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour ce 18h. En titre, audience de prestation de serment ce lundi 17 juillet à Abidjan des nouveaux membres du Conseil constitutionnel dont la présidente, la juge Chantal Nanaba Camara. Carlos Condé pour le point de cette cérémonie en début de journal. Et puis le Conseil national de lutte contre le sida, CNLS, a tenu sa 9e session le 14 juillet dernier. Il était question de faire le bilan de la réponse nationale au VIH au 31 décembre 2022 et présenter les perspectives 2023-2025. Sur le continent, au Sénégal, un projet de modification de la Constitution sur les conditions de dissolution de l'Assemblée nationale est en débat dans le cadre d'une session parlementaire extraordinaire. Nommée par le décret 2043-403 du 9 mai 2023, la magistrate hors hiérarchie Chantal Nanaba Camara a pris officiellement la tête du Conseil constitutionnel ivoirien en remplacement de Koné Mamadou qui était en poste depuis le 3 février 2015. L'audience solennelle de sa prestation de serment s'est tenue ce lundi 17 juillet au palais présidentiel d'Abidjan en présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Carlos Condé y était pour le compte de Radio de la Paix. Il nous fait le point.
Nouvellement nommée à la tête du Conseil constitutionnel ivoirien pour les 6 prochaines années, Chantal Nanaba Camara a prêté serment en ces termes.
Je m'engage à fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridiques, politiques, économiques ou sociaux, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel.
En plus d'être un symbole, le président Alassane Ouattara a dit à Chantal Nanaba Camara que sa nomination est méritée au regard de son parcours.
Votre accession à cette haute fonction de l'État est plus que méritée au regard de votre parcours professionnel de près de 45 ans dans la magistrature, mais également parce que vous incarnez un serviteur engagé et dévoué de l'État.
Avant de lui adresser cette exhortation,
je compte sur votre abnégation, votre rigueur, votre impartialité dans l'accomplissement de votre exaltante mission au service des Ivoiriens, en ayant pour boussole notre loi fondamentale.
À noter que le président de la République va procéder ultérieurement à la nomination de 3 conseillers au Conseil constitutionnel en remplacement de ceux dont le mandat arrive à expiration le 26 juillet 2023.
Première femme présidente du Conseil constitutionnel ivoirien, Chantal Nanaba Camara a été avant cela la première femme présidente du Conseil supérieur de la magistrature, puis première femme présidente de la Cour de cassation. Sa nouvelle nomination rend évidemment fière la junte féminine. Suivons justement quelques réactions. Vous entendrez tour à tour les ministres Kandia Camara, Raymond Goudou Koffi et Françoise Remarque.
C'est un grand honneur pour la jeune féminine, c'est une fierté. Celle qui est choisie, non seulement est une femme, mais une femme de qualité. Qualité intrinsèque, qualité professionnelle, qualité morale. Et nous, femmes de Côte d'Ivoire, nous sommes heureuses et fières. Aujourd'hui.
C'est un honneur pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire et plus particulièrement pour celles qui très tôt, n'est-ce pas, se sont données pour objectif d'accompagner cette promotion des femmes. Nous avons des femmes valeureuses, nous avons des femmes compétentes. Aujourd'hui, c'est une femme qui a l'expertise, n'est-ce pas, dans le domaine et nous savons qu'elle va avoir un beau parcours, en tout cas, on prie Dieu pour cela.
Écoutez, c'est bien sûr une énorme fierté d'avoir une femme dans cette institution qui est une institution importante, prioritaire pour notre pays. Et il ne s'agit pas simplement, bien sûr, de la fierté d'avoir une femme à la tête du Conseil constitutionnel, mais surtout d'une femme compétente qui va pouvoir dire le droit. La mission qui lui a été confiée par le président de la République est une mission de très haute importance, bien sûr pour le président de la République, mais surtout pour le pays. Et nous savons qu'elle remplira bien cette mission.
C'était à l'instant les ministres Kandia Camara, Raymond Goudou Koffi et Françoise Remarque dans des propos recueillis par Carlos Condé. Et puis le comité exécutif de l'UPC, l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, séjourne à Abidjan depuis le 16 juillet dernier. Cette présence est motivée par la tenue d'une réunion préparatoire de sa prochaine conférence en Côte d'Ivoire en 2024. Au lancement des travaux de ce lundi qui dureront 2 jours, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a appelé au renforcement de la coopération entre les membres de l'UPCI pour une union où règne la paix et la solidarité. Adama Bick Togo dans les propos recueillis par Junior Cardin.
C'est le lieu pour moi de souhaiter que les prochaines échéances électorales dans les pays membres de notre Union se déroulent paisiblement, notamment la Côte d'Ivoire qui procédera en septembre prochain à des élections locales. La survenue de violences électorales dans certains pays membres interpelle au plus haut point l'UPCI, notre Union, car les fondements islamiques nobles de sa création ont refoulé depuis toujours la violence sous toutes ses formes. Les valeurs islamiques que promeut notre organisation doivent servir de modèle dans ces processus électoraux, tout comme dans l'éducation de nos enfants et dans la construction de nos États. Plus que jamais, nous devons, à travers l'UPCI, renforcer notre engagement à œuvrer ensemble pour répondre efficacement aux défis sécuritaires, économiques, écologiques et politiques que connaissent nos pays. Cette rencontre du comité exécutif de notre Union nous donne une fois de plus l'occasion de réfléchir sur la manière dont nous devons adresser les défis auxquels l'UPCI est confronté. Au total, nos travaux aborderont des aspects importants de la vie de notre Union, notamment la tenue en Côte d'Ivoire de la prochaine conférence de l'UPCI en 2024, mais la toute première que notre pays aura l'honneur d'abriter. Par conséquent, les décisions qui seront arrêtées au terme de ces 2 jours sont très attendues.
Adama Bick Togo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Grand Bassam abrite du 17 au 28 juillet 2023 un atelier de formation sur la gestion des crises et didactique méthodologique organisée conjointement par notre pays à travers l'Office national de la protection civile, ONPC, et l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC. Durant 2 semaines, les capacités des participants, qui pour l'essentiel sont des directeurs de la protection civile, originaires de 8 pays francophones, membres de l'OIPC, seront renforcées. Suivons donc le reportage de Jean-Claude Mabéa qui était à la cérémonie d'ouverture ce lundi 17 juillet.
Cette formation vise, selon le directeur général de l'ONPC, un but, celui de faire face aux nouveaux défis sécuritaires dans les États membres de l'OIPC à Mankoukassi, Gabin.
Aux problèmes classiques de protection civile que nous connaissons hier, se sont ajoutés d'autres problèmes émergents, parfois difficilement identifiables. Ces problèmes, dans le contexte africain, sont marqués aussi par le terrorisme, dont les services de protection civile sont appelés à gérer les effets. Dès lors, pour relever ces défis, il est nécessaire, à l'aide de la mondialisation, de rechercher et de trouver également des stratégies et des solutions communes.
Le conseiller technique en charge de la décentralisation, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a relevé l'intérêt que la Côte d'Ivoire accorde à ses assises de haut niveau. Karine Zunon.
À terme, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité envisage de former à la gestion de crise les différents acteurs nationaux impliqués dans la prise en charge des crises et des situations d'urgence. Il s'agit également pour la Côte d'Ivoire de disposer d'un bassin de formateurs outillés à l'effet d'assurer la relève des experts internationaux pour une meilleure coordination dans la gestion des crises.
Laurent Richard, l'un des 2 formateurs venus de la Suisse, a expliqué la méthodologie de gestion de crise.
Pouvoir apprendre aux participants de travailler en commun, de casser ce qu'on appelle les silos, de pouvoir vraiment mutualiser leurs forces pour arriver à gérer une situation de manière correcte.
Ce sont au total 16 stagiaires issus de 8 pays francophones, membres de l'OIPC, qui prennent part à cet atelier de formation.
La 9e session ordinaire du Conseil national de lutte contre le sida CNLS 2023 s'est tenue le 14 juillet dernier. à Abidjan Plateau. Au menu de cette rencontre, il a été respectivement question du bilan de la réponse nationale à VIH au 31 décembre 2022 et les perspectives 2023-2025, suivies de deux contributions, celle du représentant résident de l'OMS et des organisations de la société civile ivoirienne. Enfin, de la distinction de la première dame Dominique Ouattara en qualité de commandeur de l'Ordre de la Santé et de l'adresse du vice-président de la République. On fait le point avec Paul-Bénédicte Volou.
Le ministre de la Santé et secrétaire exécutif du CNLS sur le bilan dans la riposte au VIH, Pierre Demba.
En 2021 et 2022, les résultats suivants ont été obtenus. Une population de personnes vivant avec le VIH-SIDA estimée à 47 595 personnes. En 2022, nous avons dénombré 8 878 nouvelles infections survenues dans près de 25% des cas chez les jeunes. Concernant les décès, 9 952 personnes et ceux-ci ont concerné dans 52% les cas des hommes. À la fin de décembre 2022, 192 663 personnes, dont 9 296 enfants âgés de moins de 15 ans, ont bénéficié de traitements antirétroviral.
Au nom des partenaires techniques et financiers, le représentant résident de l'OMS, Jean-Marie Vianney-Yamiogo.
Nos partenaires notons avec satisfaction des progrès importants enregistrés ces 10 dernières années dans la riposte au VIH. Du soutien significatif et d'une collaboration de plus en plus efficace, et cette dynamique nationale a permis d'intensifier efficacement l'offre des services de prévention et de traitement du VIH, permettant la réduction de 66% des nouvelles infections et de 70% des décès liés au VIH entre l'année 2010 et 2023.
Plusieurs doléances ont été formulées par la société civile. Jean-Michel José Daignan.
Vous sollicitez votre appui en matière de mobilisation de ressources, en matière de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, vulgariser les lois antidiscriminatoires et les plateformes qui dénoncent les violations, assurer la disponibilité continue des médicaments antirétroviraux et des intrants pour des examens biologiques, y compris la charge virale.
Notons que la première dame Dominique Ouattara est l'invitée d'honneur de cette 9e session.
Et 61 ans après son institution, la journée de la femme africaine reste toujours méconnue et est de moins en moins célébrée sur le continent. Pour une meilleure vulgarisation de cette journée, le consortium des organisations de la société civile féminine la commémore sur une période d'un mois, notamment du 14 juillet au 2 août 2023. Action de réflexion et de partage sur les droits de la femme dans le contexte actuel des actions civiques et citoyennes, des séances de sensibilisation seront menées et le thème retenu pour cette édition, Femmes africaines, changement dans le contexte numérique. Le sénateur Mariam Dao Gabala, présidente de la commission égalité du genre au niveau du Parlement panafricain, est au micro de Mata Touré pour plus d'explications.
C'est la journée de la femme africaine. Et si les femmes africaines elles-mêmes ne saisissent pas cette opportunité de la journée de la femme africaine pour réfléchir sur elles-mêmes, pour renforcer leur confiance en elles, c'est pas quelque part d'autre dans le monde où cela va se passer. Donc c'est déjà une excellente idée de parler de la journée de la femme africaine et surtout de la faire connaître. Tout le monde connaît le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Mais combien d'Africains savent qu'il y a une journée intitulée la journée de la femme africaine? Très peu. Combien de femmes africaines savent qu'il y a une journée pour les célébrer? On parle de digital, mais quelle place est-ce que la femme africaine peut avoir dans le digital? Qui mieux qu'une femme peut créer des produits digitaux qui répondent à ce dont la femme a besoin? Mais on a besoin d'elle aussi en tant qu'utilisatrice. Aujourd'hui, même pour inscrire votre enfant en 6e, il faut aller sur le digital. Et combien de femmes sont capables de le faire? Mais le rôle des organisations féminines, c'est d'attirer l'attention en disant, c'est vrai, on va dans le digital, mais il y a une grande inégalité qui pointe à l'horizon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cette inégalité entre l'accès des femmes et des hommes au digital? Donc le thème est vraiment un thème d'actualité.
Vous venez d'entendre Mariam Dao Gabala, présidente de la commission égalité du genre au niveau du Parlement panafricain. Et parlons des médias. Des radios de proximité, notamment 5, ont été déclarés vainqueurs du concours Radio Amis des Enfants, initié par l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, notamment UNICEF, compte rendu signé Mata Touré.
Je suis Kolo Kone, jeune reporter de Korogo. Aujourd'hui, j'étais là pour présenter mon plaidoyer aux autorités, c'est-à-dire nos différents besoins en tant que jeune reporter.
Kolo, 11 ans fait partie de nos jeunes futurs confrères des 160 radios de proximité qui, entre 2021 et 2023, ont compilé près de 60 000 diffusions en langue locale et en français. Elles ont produit des spots, des émissions interactives, des reportages et des magazines sur les développements et le bien-être des enfants qui ont touché 80% de la population. Le président du conseil de l'URPCI, l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, Eric Gou.
Les stations de radio communautaires sont aussi variées que les communautés auxquelles elles appartiennent. Les programmes radiophoniques produisent et donnent aux citoyens une voix et une opportunité de se faire entendre, permettant parfois de provoquer des changements pour leur communauté et pour eux-mêmes.
L'UNICEF collabore depuis 2011 avec l'URPCI pour la production d'émissions participatives et des campagnes de sensibilisation radiophonique. Jean-François Basse est le tout nouveau représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire.
Nous croyons en la communication, au message qui est adapté aux enfants, et nous croyons aux médias comme moyen de faire passer les messages clés sur les droits de l'enfant.
Ce sont les radios Ben Kadi de Tangrela, Bradé de Kounfao, Saphir de Boaké, Phare de Tabou, Média de Boaké qui ont été distingués pour la qualité de leur production, respectivement sur le thème de la nutrition, de la santé, de l'éducation et de la protection de l'adolescent et des jeunes.
Au plan international, lutte contre l'impunité dans le monde, ce 17 juillet 2023 est célébrée la journée de la justice pénale internationale qui marque l'anniversaire de l'adoption du statut de Rome le 17 juillet 1998, le traité fondateur de la CPI, la Cour pénale internationale. Quel bilan peut-on faire des actions de cette Cour internationale de justice dans la lutte contre le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression? Une idée avec Ali Ouattara. Il est le coordonnateur des coalitions de l'Afrique francophone pour la CPI. Il est joint par Marthe Kakou.
Cette cour-là a été créée essentiellement pour la lutte contre l'impunité. Et donc, par conséquent, à trois avantages que nous avons notés. Il s'agit notamment des sanctions exemplaires pour les crimes graves, de la dissuasion pour prévenir et éviter la répétition des crimes, et enfin la garantie d'une paix sociale durable en intégrant une dimension de justice réparatrice dans les procès. On constate qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par la Cour, notamment des enquêtes qui ont été menées, les examens préliminaires, il y a des mandats d'arrêt qui ont été émis, il y a des procès qui ont vu le jour. Mais en dépit de tout cela, aujourd'hui, le bilan, c'est que nous avons une perception controversée de la Cour.
Et pourquoi?
L'un des éléments, c'est la mauvaise connaissance de la Cour et de son fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu trop d'espoir en la Cour. Il y a aussi des erreurs qui ont été commises par la Cour, notamment la stratégie d'enquête dans certaines affaires qui doit être revue par la Cour. Il y a également le fait que beaucoup de victimes sont laissées pour compte. Quand, par exemple, il y a un acquittement qui est fait, lorsqu'il y a aussi même des condamnations qui sont faites, souvent les victimes ne sont pas satisfaites des différentes réparations qui leur sont données. Et donc, nous remarquons que aussi bien la Cour a des forces, mais également elle a beaucoup de faiblesses. Donc la Cour doit pouvoir tirer les leçons des erreurs qui ont été commises pour parfaire son fonctionnement dans le cadre de la lutte contre l'impunité.
À l'instant, Ali Ouattara, coordonnateur des coalitions de l'Afrique francophone pour la Cour pénale internationale. Et puis au Sénégal, un projet de modification de la Constitution sur les conditions de dissolution de l'Assemblée nationale est en débat depuis ce lundi 17 juillet, et ce dans le cadre d'une session parlementaire extraordinaire. Il s'agit de l'article 87. Sa révision permettrait au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale par décret, donc à tout moment, simplement après avoir recueilli l'avis du Premier ministre et du président de l'Assemblée, alors qu'aujourd'hui, il y a un verrou. Le président ne peut dissoudre l'Assemblée avant un délai de 2 ans après les législatives. Les dernières ont eu lieu, pour rappel, il y a 1 an, c'était en juillet 2022 dans le pays. Notons également que l'examen de certains projets de loi issus du dialogue national de juin 2023 pourrait permettre aux opposants Karim Ouad et Khalifa Sall de participer à l'élection présidentielle prévue en février 2024. C'est la fin de cette édition, le rappel des principaux titres. Audience de prestation de serment ce lundi 17 juillet à Abidjan des nouveaux membres du Conseil national, dont la présidente du Conseil constitutionnel, dont la présidente, la juge Chantal Nanaba Camara. Et puis le Conseil national de lutte contre le sida, CNLS, a tenu sa 9e session ordinaire le 14 juillet dernier. Il était question de faire le bilan de la réponse nationale au VIH au 31 décembre 2022 et présenter les perspectives 2023-2025. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre magazine Economia, piloté par Jean-Claude Comé.